Maintenant, dans ma deuxième partie, je voudrais essayer de cerner quelques jalons pour comprendre cet itinéraire, quelques points de repère. Je reviens à mon point de départ. Dans les années 30, Méric, on le voit sur les photos de l'époque, c'est vraiment l'archétype de l'officier des affaires indigènes. Et je me contenterai de dire, je pourrais évidemment développer ce point, je pourrais contenter de dire qu'est-ce qu'il a appris auprès de Lyautey. Et d'après des notes que son fils m'avait passées, très difficiles à lire parce que le fils les avait caviardées de tout ce qui était intime, j'ai compris qu'il n'avait pas appris grand-chose de Lyautey. C'est un Lyautey imaginé et un peu imaginaire qui a servi de référence après à Méric. Parce qu'il est tombé sur un Lyautey sénescent qui était qui était semi-gâteux, qui avait encore des passages dans la journée où il était tout à fait lucide, et d'autres où il était complètement délabré. Ça ferait bien dans le paysage de dire, ben voilà, c'est un officier qui a recueilli le testament de Lyautey, la fameuse déclaration où il dit « il est à prévoir dans un avenir plus ou moins proche » que l'Afrique du Nord évoluée deviendra indépendante et notre tâche, c'est déjà de nous y préparer et de faire en sorte que les indigènes continuent à nous aimer, etc., etc., etc. Déclaration bien connue et évidemment qui ont servi énormément à De Gaulle lorsqu'il s'est heurté à la révolte de l'armée en Algérie. C'est le général Rondeau qui m'avait dit, qui avait l'oreille de De Gaulle, qui m'avait dit toutes ces déclarations de Lyautey, de Gaulle, dans ses conciliabules avec les généraux quand il allait en Algérie, leur disait mais qu'est-ce que vous croyez, moi je fais du Lyautey, c'est votre icône, enfin c'est votre modèle, et bien moi je fais qu'appliquer Lyautey, enfin c'était la très bonne communication. Bon, donc voilà, je ne me permettrai pas de dire que dans les années 30, on voit pointer l'officier des colonisateurs. Je noterai seulement deux choses. Son extrême réserve vis-à-vis de la politique berbère, parce que c'est un homme d'une grande honnêteté intellectuelle, ça je crois que c'est incontestable, et qu'il essaye d'appliquer les directives de la politique berbère qui lui sont enjointes par la direction des affaires chérifiennes, et que ça marche pas, ça colle pas. Bien avant Jacques Berck, la thèse de Jacques Berck consacrée au Sexawa, il dit à peu près, c'est plutôt Berck qui parle ici, que je fais parler, mais Méric dit à peu près la même chose. L'ISREF, le droit coutumier, c'est du shra, c'est la charia, si vous préférez, sans cadi, sans magistrat. C'est du droit musulman, mais un peu arrangé, un peu accommodé par les anciens de l'assemblée des gens du village, par les ancêtres, les diwan des Ait Arba'in, en gros. Donc, il n'a pas marché à la politique berbère. Pour des raisons scientifiques, pour des raisons intellectuelles, les objections scientifiques qu'il fait à cette politique le portent, l'inclinent à s'éloigner et à dire dans ses rapports, ça n'a pas dû être très bien vu, mais ça ne colle pas à la politique berbère, ça ne marche pas. Les berbères ne sont pas comme vous le croyez qu'ils sont. Le deuxième moment où je vois pointer quelque chose qui peut annoncer l'officier des colonisateurs, c'est lorsqu'il fait l'éloge des Espagnols dans le Rio de Oro. Il y a beaucoup, puisqu'il était dans le sud désertique, semi-désertique, il a beaucoup fréquenté les officiers espagnols, qui étaient méprisés par les officiers français. Un des traits les plus saillants de la mentalité des affaires indigènes, c'est de dire « nous, on est des gens très bien, et les Espagnols, c'est des pauvres... » C'est des gens qui ne savent pas lire une carte, c'est des gens qui ne parlent pas l'arabe, c'est des gens, ou le berbère, c'est des gens qui savent pas, qui n'ont pas fait d'études ethnographiques, ils sont nuls en somme. Et bien lui il dit, pour être allé plusieurs fois jusqu'à Cap Juby, il dit, les Espagnols, il faut citer avec, j'emploie le langage de l'époque, les indigènes. En somme, il constate qu'il n'y a pas de barrière coloniale. Et il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, et dans la zone nord, et dans la zone sud. Il n'y a pas cette barrière coloniale, il n'y a pas cet apartheid diffus, pas législatif, et pas complet, il ne faut pas raconter d'histoire non plus, mais il n'y a pas de barrière étanche, comme dans la zone française. Ça le frappe beaucoup. Il n'emploie pas le mot racisme, c'est seulement en 1946, Ça, j'ai fait très attention à son vocabulaire, à son lexique, qu'il introduit le mot racisme. Donc, si vous voulez, première période des années 30, je dirais qu'il est un officier comme Diego Brosset, à la manière un peu romantique des personnages qui traversent les romans de Saint-Exupéry. Il n'a pas connu Saint-Exupéry, mais on le verrait bien accueillir les aviateurs de l'aéropostale à Cap Juby et boire le thé avec eux et quelques notables sarawaks. Il est aux antipodes de l'officier qui devient anticolonialiste, le capitaine le lieutenant Olligny, de La Rose des Sables de Monterlon, si vous voulez, pour avoir resté dans le contexte des années 30. Monterlon l'écrit dans les années 30, mais il publiera une fois le Maroc décolonisé. Pas très courageux, Monterlon. Alors que c'est un très beau livre, très très, très, très intéressant, La Rose des Sables. Et ce qui est curieux, c'est que sa femme, Marie-Madeleine, qui a le flair et l'étoffe d'une grande journaliste, elle vient le voir une fois, enfin plusieurs fois, et dans ses archives, j'ai trouvé un petit journal d'une douzaine de pages qui n'a pas été publié, et elle n'est absolument pas dupe des apparences. Elle trouve que les chefs sont côteleux, hypocrites. Elle dit mais les dissidents, mais il y en a encore. Et les officiers ne s'en rendent pas compte. La population les accueille, les héberge, les camoufle, etc. Enfin, c'est l'envers, si vous voulez, du journal officiel à la rédaction duquel Méric participe, contribue. Je veux dire, le journal de marche mensuel, hebdomadaire mensuel, et les rapports annuels de la région de Goulimi. Deuxième guerre mondiale, je dirais, aucune notation dans le journal de marche du 2e GTM sur la mue psychologique qu'accomplissent les Goumiers. C'est très frappant. La métamorphose corporelle qui est saisissante sur les photos, qui les caractérise. Au départ, ce sont des Goumiers avec leurs nattes, avec les naïls, les sabbats nu-pieds, avec la djellaba fabriquée à leur usage, qui leur tient l'uniforme, avec des grandes barbes. Et à la fin, entre le Rhin et les Danubes, ils ont les cheveux courts, plus de barbe, quelquefois une moustache à la Clark Gable, et ils sont habillés comme des Tommies et équipés comme des GI, enfin je veux dire un bric-à-brac anglo-saxon si vous voulez, qui fait qu'il faut vraiment regarder de près pour se dire « Ah oui, ce sont des Marocains !» Vous voyez, c'est absolument saisissant, parce que le costume, quand on change de costume, on ne fait pas que changer on change de peau aussi au sens existentiel du terme. Sur leur métamorphose psychologique non plus, je ne développe pas. Par contre, beaucoup d'observations sur leurs conditions matérielles. Il est très sensible à ce qu'on pourrait appeler la grande pitié des Goumiers. Et là, on la voit dans le film Indigène. Et les pieds gelés par dizaines dans le deuxième GTM, en quelques mois, en deux ou trois mois, il y a des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines, je n'ai pas fait le calcul, en lisant le journal de marche, les archives de Vincennes, mais tout le temps, il y a des rapatriés parce qu'ils ont les pieds gelés sur le front des Vosges durant un hiver très, très, très rigoureux. Et bien d'autres, et puis sur le fait qu'il y a énormément de morts, ils sont remplacés par des jeunes qui ne savent pas se battre, qui sont jetés sur le feu sans préparation, et Méric est atterré et écœuré. Là, il y a des expressions très fortes. Et il est extrêmement sévère pour les chefs. Le futur résident général Guillaume, le général Carpentier, Delatte de Tassigny. D'abord, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'ils ne vont jamais au feu. Lui, son personnage qu'il admire, c'est Diego Brosset, un général qui va en première ligne et qui se fait tuer. Il le dit. Et quand il le dit dans ce document, c'est quand même embêtant parce que ce journal de marche du 2e GTM, ce n'était pas un document officiel, mais c'était un document à l'intention de ses pairs, ses camarades de guerre. Il a circulé, il est arrivé jusqu'aux oreilles des intéressés, et qu'après, qu'est-ce qu'il note? C'est le général Guillaume, c'est le général Carpentier, c'est pas Delattre, en plus Delattre il meurt en 51, et puis leurs carrières se sont décroisées après. Mais c'est Jouin, et Jouin, il n'aime pas ça du tout, et donc il va être très mal noté, ça va retarder son avancement. Il aurait dû être général de brigade beaucoup plus tôt. Donc voilà, disons, deux points dans ce journal, ce qu'on pourrait appeler un tableau de la grande pitié des Goumiers, pour parler un peu le langage du XVIIe siècle, et puis des jugements extrêmement sévères sur les généraux qui sont débouchés et qui envoient sans discernement et sans aller y voir de près les Goumiers, le 3e régiment de tirailleurs algériens qui se bat avec farouchement, qui tient farouchement les lignes de crête dans les Vosges, les légionnaires et des parachutistes de la France libre. Et en particulier, Méric trouve ça absolument idiot de se battre sur les crêtes avec des grenadiers qui viennent, et des Bavarois qui sont habitués à la forêt, à la montagne. Et dans la montagne, c'est du combat au corps à corps. Donc la supériorité aérienne et la supériorité en équipement lourd des troupes alliées, y compris des Américains qui sont là, ne sert strictement à rien. Et dans le combat au corps à corps, les grenadiers sont plus forts que les alliés. Ils sont plus forts que les alliés parce qu'ils se battent le dos au mur. Ils savent que si les alliés traversent le Rhin, l'Allemagne est foutue. Tandis que les Américains sont quand même moins motivés pour se battre. Et nos pauvres Goumiers qui viennent du Maroc, pourquoi se battaient-ils? À cause de Sid Fissian, à cause de Monsieur l'officier. Bref, je passe là-dessus. Sa prise de conscience s'amorce en Indochine. Alors en Indochine, il y a plusieurs aspects que je voudrais développer. D'abord, ses directives contre les violences de guerre extrême. Je vais quand même vous lire, parce que c'est mieux de lire ces directives que d'en parler. J'ai fait un article sur ce sujet dans les mémoires de... des mélanges, pardon, en hommage à Jean-Jacques Pérennes, qui est un ancien enseignant à l'Institut d'études politiques, que certains d'entre vous ont connu, et qui est un dominicain, actuellement directeur d'école biblique de Jérusalem. Voilà ce qu'il écrit au général Valuy. Il est débarqué depuis 2 mois à Saïgon. Le général Valuy commande le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. Il lui écrit: nous sommes pires que les Vietnamiens. On ne dit plus les indigènes. Nous n'apportons pas ce qu'ils apportent. Ils circulent. Nous restons calfeutrés dans nos postes. Ils organisent, donnent des ordres, administrent, prennent contact avec la masse. Nous tuons et pillons, puis partons. C'est clair, hein, pas besoin de commentaires. Il dit les Vietnamiens, à l'époque on dit les pirates, mais il ne dit pas le Viet Minh. Donc vous voyez, la terminologie est flottante, allusive, approximative, et bien sûr discutable aujourd'hui. Mais il ne dit ni les indigènes, ni les pirates. Je donne encore 2 exemples. Dans sa directive du 11 janvier 1947, où il ordonne que l'on remette à leurs propriétaires les meubles incrustés de nacre qui avaient été confisqués par les soldats, il admirait beaucoup les intérieurs des Vietnamiens et les pagodes, c'est un esthète. Il écrit, il enjoint plutôt, « Il est exact que dès mon arrivée à Vinh Long, songeant à la tête que ferait ma famille si on venait lui réquisitionner son salon Louis XV, c'est un bon bourgeois du Languedoc qui parle, j'ai mis un terme aux réquisitions illégales et inadmissibles de meubles chez les particuliers. » Le 11-8-47, il écrit, non seulement les exécutions sommaires sont interdites, sous peine des plus graves sanctions, mais je proscris totalement toute destruction qui ne se révèle pas absolument nécessaire. Aucune maison ne doit être détruite, même si elle a été utilisée par les formations rebelles. Quelques petits points. Enfin, je répète encore une fois que les édifices d'un culte ne doivent jamais être endommagés et qu'en aucun cas, ils ne peuvent servir de commandement. Un peu plus loin, une autre directive, l'expérience a montré que sous couvert de sécurité, des actes répréhensibles et parfois odieux, on dirait aujourd'hui la torture bien sûr, se commettaient éminemment préjudiciables au renom de l'armée. Donc là je crois que c'est le premier point. Il a lutté de toutes ses forces contre les représailles aveugles et contre les violences de guerre extrême. Alors j'ai eu la curiosité, puisqu'il part de la zone est de Cochinchine, de regarder après son successeur, le colonel Max Briand, dans les archives. Et c'est saisissant. Max Briand, c'est l'homme qui a détruit les maquis de l'Union des populations camerounaises, où il y a eu une guerre terrible, et oubliée, et occultée, parce que la guerre d'indépendance de l'Algérie recouvrait tout. au Cameroun, chez les Bamileke, entre 1956 et 1960. Le général Brion, il est encore colonel, il succède à Méric, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux crabes, c'était des chars amphibies, il ordonne aux formations crabes dont il disposait d'écraser le riz en herbe des villages suspects, des villages qu'on soupçonne d'être en sous-main acquis au Viet Minh. Il bombarde les rizières avec des Junkers allemands, enfin des avions pris à l'Allemagne, avec des barils d'essence, enfin on sera presque à Alep. Voilà la guerre qu'il fait. Ce n'était pas la guerre comme la faisait Méric. Donc, bon, je prends cet exemple parce que la guerre, ce sont des hommes, ce sont des chefs, ce sont des directives. C'est la guerre, chaque fois qu'on l'étudie, c'est mille guerres qui se juxtaposent, qui s'alvéolent, qui se recouvrent. Et je pense qu'il faut être attentif aux situations locales. Donc, pas la guerre n'importe comment. Ensuite, deuxième point en Indochine, deuxième prise de... deuxième point allant dans le sens d'une prise de conscience, il acquiert dès 1947 la certitude que le Tonkin est perdu et qu'il faut se replier sur doit se replier sur la Cochinchine, et que la seule façon de sauver la Cochinchine, il ne parle jamais de la Nam, je ne sais pas pourquoi, qui est entre les deux, le Tonkin et le Vietnam et la Cochinchine, la seule façon de sauver la Cochinchine, c'est de construire l'État autonome vietnamien dans le cadre de l'Union française, qui était inscrite dans la Constitution de la 4e République en 1946. Il s'en va peu de temps avant le lancement de l'expérience Bao Dai, le souverain alamite restauré sur son trône en juin 1949. Mais il est très réservé vis-à-vis de la manière dont ses chefs opèrent en faisant du chiffre ce qu'ils appellent le jaunissement des troupes du corps expéditionnaire en Indochine. Il est très réservé sur l'emploi des milices caodaïstes et Oahao. Ce sont des sectes, enfin, ce sont des dérivations du bouddhisme, et il considère que ces milices travaillent pour... n'ont pas acquis un idéal civique, ne peuvent pas construire une patrie vietnamienne, elles ne peuvent pas s'élever au-delà du stade de la conscience villageoise et confessionnelle, en quelque sorte. Donc, et puis elles opèrent énormément d'exactions. Donc il est extrêmement réservé. Alors lui, il veut absolument développer, mais ça va se faire très peu, ce qu'on appelle la garde républicaine, c'était l'armée régulière dans le Sud-Vietnam. Et il passe énormément de temps à l'école de cadets, qui est l'école d'officiers, si vous voulez, de cette garde républicaine. Et il s'emploie énormément à former une élite d'officiers vietnamiens. Je dirais que ensuite, le troisième point, ce qui concerne l'Indochine, c'est qu'il prend très au sérieux les Vietnamiens. D'abord, j'aime pas l'expression le mal jaune, mais vous savez, c'est l'expression par laquelle on a désigné l'espèce de coup de foudre que les Français, en particulier les officiers qui venaient des autres parties de l'Empire colonial, ont eu pour le Vietnam. Mais il est évident qu'au Vietnam, il a ressenti qu'il était en face du tréfonds d'une très très vieille civilisation. La Chine n'est pas loin. Et il a essayé de l'apprendre, il suivait des cours du soir en vietnamien, mais il n'a pas eu le temps d'aller très loin. Mais il a sympathisé avec la bourgeoisie vietnamienne locale, et il l'invitait chez lui avec des officiers. Il essayait de faire la politique du contact, ça c'est du lyotais évidemment. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est qu'il a, à travers cette bourgeoisie de planteurs ou bien de dirigeants de districts administratifs, il a senti le conflit, pour parler comme Tourguenieff, entre les pères et les fils. Père et fils, c'est un très beau roman de Tourguenieff au moment de la jeunesse de l'intelligentsia dans les années 60 en Russie. Il a très bien senti que les pères étaient tellement attachés à la francophonie qu'ils ne pouvaient pas... ils voulaient bien un État autonome, un État dans l'Union française, ça oui. Mais il ne passait pas au Viet Minh. Et il a très bien senti que les fils se révoltaient contre les pères, contre l'autorité aussi du patriarche, il y avait les deux, qu'ils étaient acquis au nationalisme radical, au nationalisme du Viet Minh. Et dans sa correspondance, j'ai trouvé deux lettres où il intercède auprès des autorités pénitentiaires pour libérer deux fils de notables, c'est un langage de colonial marocain, parce que là-bas on ne disait pas notable, mais deux fils de la bourgeoisie vietnamienne, enfin, pour qu'ils soient libérés, et c'était des gens qui étaient passés au Viet Minh. Donc il leur fait confiance, il les libère, il veut les voir après, leur passer un savon et leur dire, ben voilà, maintenant à vous de jouer, à vous de faire le rétablissement que vous devez, et voilà les raisons pour lesquelles vous devez le faire. Et puis, le quatrième moment où on voit alors sa prise de conscience s'accélérer, c'est lorsqu'il revient en Indochine, alors cette fois-ci à Hanoï, fin 59, début 60, fin 49, début 50. Là, je saisirai seulement deux points, citation à l'appui, parce qu'elle parle toute seule, ces citations. Le premier point, c'est lorsque, dans son journal de route, il s'offusque du traitement très méprisant de ses collègues, officiers et administrateurs civils, vis-à-vis de la question des minorités. C'est-à-dire, en 1950, l'autorité coloniale française essaye de déléguer le plus possible la tâche à Bao Dai et à l'État vietnamien. Et voilà ce qu'écrit Méric au sujet de cette délégation. Jeudi 14 décembre, réunion au siège du gouvernement du Nord-Vietnam, c'est-à-dire à Hanoï, pour régler la prise en charge des populations appartenant aux minorités ethniques qui ont reflué vers l'intérieur après la chute de la route coloniale 1. Discussion qui manque de grandeur. Ces minorités dont nous avons voulu l'autonomie, nous voulons maintenant laisser la charge au gouvernement du Nord-Vietnam comme pour lui créer un surcroît d'embarras. Médiocrité de certains fonctionnaires. Aucun d'eux ne voit, alors ça c'est le mérite de la Tunisie et du Maroc qui s'annonce, qui pointe, aucun d'eux ne voit que l'indépendance du Vietnam doit se construire dans l'enthousiasme et la générosité. On dirait qu'ils attendent sournoisement nos successeurs vietnamiens et se réjouissent d'avance de leurs difficultés. Et ça, c'est très très bien vu et ça caractérise, je crois, le comportement de beaucoup d'agents coloniaux qui, dans la période de transition, au moment de la décolonisation, donc le passage des leviers de l'État colonial à des manettes, si vous voulez, de cet appareil aux nationalistes. Et puis ceci, c'est très court, mais bon, lorsque Delattre revient, Delattre qu'il n'aimait pas du tout, il trouvait qu'il faisait du cinéma, il leur avait dit quand il libère l'île d'Elbe des Allemands, après la Corse, il leur avait dit « Vous répondez sur l'île comme des hirondelles ». Or il va y avoir des centaines de morts dans ce combat. Et vous répondez comme des hirondelles, ça choque énormément Méry, qui sait que le feu tue et que cette imagerie est légère et désinvolte et celle d'un gros chef qui est jamais... qui sait plus ce que c'est que le bruit du canon ou des fusils mitrailleurs. Alors, voilà, Delattre faisait toujours attendre, c'était à l'école de Lyautey d'ailleurs, c'est le meilleur disciple de Lyautey, avait pour tactique de toujours faire attendre les gens. Il s'attarde à Dalat, il fait attendre tout le monde bat la semelle à Hanoï, et dans son carnet, Méric note, pour les militaires, perte de temps, mais pour les autorités vietnamiennes, perte de temps et de face. Et là, je crois qu'on sent, dans ce passage très court, et il communie avec, en quelque sorte, avec l'humiliation des autorités vietnamiennes qui attendent sans savoir quand il va arriver, qui sont là pour faire galerie, pour faire tapisserie. Donc, « Je dirais que le mérite des passages de relais étatiques en Tunisie et au Maroc, 5 ans plus tard, se forge en Indochine, avec ses antennes cognitives en état d'alerte et son imaginaire sociopolitique en perlaboration. Il me reste très peu de temps, alors je passe sur Tiznit et Delis, peut-être y revenir dans la discussion, et je voudrais maintenant, et je terminerai par là, examiner, je parlerai très peu du Maroc, comment Méric franchit la ligne en Tunisie. Alors, il aurait fallu que je les photocopie et que je vous les distribue. Il y a 4 pages, pages 138-143, qui ont pour titre « Enjamber la barrière coloniale ». Et là, simplement, je vais noter 2 faits avec quelques citations, faire parler Méric, et j'en aurai terminé. Je dirai quelques mots sur Méric après 55. Il me semble qu'en Tunisie, il y a 2 points qui méritent d'être soulignés ici, dans ce fil directeur, comment il s'est éloigné de son horizon premier d'officier des affaires indigènes, sa prise de distance avec le protectorat comme régime politique. Et là, je voudrais simplement lire ceci. Il est à Sfax, en décembre 1954, et dans son journal dactylographié, il écrit ceci. L'hôtel des Oliviers, et non l'hôtel Mabrouk. Sans doute il y avait un hôtel pour les Européens et un hôtel pour les Tunisiens. Le racisme invétéré, déjà en 1946, à propos de l'Algérie, où il était retourné, après 1942, il avait lâché l'expression « racisme des Français ». Le régime de préférence est d'injustice. Il est exact que les forces peuvent vaincre, mais quelles forces? Car ce peuple, subtil, intelligent, perfide, alors là il y a encore des clichés coloniaux qui tapissent son imaginaire, son subconscient plutôt, ce peuple subtil, intelligent, perfide est maintenant déchaîné et utilise à son profit, avec la même violence que le sabre, les arguments que nous lui fournissons. Et lorsqu'on fait un retour sur soi-même, les retours réflexifs sur soi, il n'a pas été chez les jésuites ou dans une boîte religieuse. Il était, enfin je ne veux pas parler maintenant son rapport aux religieux, si ça vous intéresse, vous me demanderez, mais c'est un enfant de l'enseignement laïque. Hein. Mais il pratique plutôt ce qu'il appelle l'examen de conscience. Et la tempête sous un crâne. Je ne sais pas s'il avait lu Victor Hugo et Jean Valjean. En tout cas, il écrit « Et lorsqu'on fait un retour sur soi-même, pas de doute, il a raison. Tout est pour les privilégiés, les rues, les magasins, les immeubles administratifs, les hôtels. Le système est absurde qui a greffé sur ce peuple misérable cette administration lourde au profit de quelques-uns. » Un peu plus loin, il écrit que il est outré de voir les millions qui sont dépensés en chocolat du Bay à la Tour, vous voyez de la Tour, de la Tour au Bay et au ministre. Plusieurs millions, boîtes de chocolat, plusieurs centaines de milliers de francs, les plusieurs millions c'était les cadeaux, les facilités de toutes sortes payées par ce peuple, c'est l'impôt, qui crève de faim. Donc, le régime politique du protectorat, toutes sortes de réflexions pour dire, mais au bout de 80 ans, de protectorat, il y a combien de hauts fonctionnaires tunisiens, il y a combien de médecins, il y a combien d'entrepreneurs modernes tunisiens, etc. Enfin, vous voyez, un bilan extrêmement sévère du protectorat et une dénonciation des privilèges de la colonie européenne. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est son exaspération contre les techniciens locaux de la colonisation, ceux qui pratiquent le protectorat en bas, par en bas. Et là, il fait toutes sortes de remarques extrêmement sévères sur les contrôleurs civils et les officiers des affaires indigènes. Et j'en lis seulement une, c'est dans le sud, il montre que le poste de Gardanne est une création de toutes pièces où on a déplacé des populations de la montagne complètement perdues dans la steppe et écologiquement sans point de repère, passant d'un écosystème à l'autre. Et qui végètent, qui sont misérables, qui sont passifs, qui sont des marionnettes dans les mains du bureau des affaires indigènes. Et il écrit, il commente, toute l'histoire du Sud, absurde, antinaturelle, si probante de notre manière, de notre manie d'imposer, de tracasser. Encore, s'il s'agissait de techniciens, mais de simples amateurs le plus souvent. Je regarde cette lettre d'officier d'AI, affaire indigène, avec un képi bleu que j'ai pris en horreur. C'est-à-dire, imaginez un universitaire qui dit « Je regarde ces mandarins avec leur toge à leur jury de thèse avec horreur. Ben » Même Pierre Bourdieu, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait une rupture symbolique avec son corps d'origine aussi passionnelle, que j'ai pris en horreur. Les officiers gras, trop bien nourris. Il avait horreur des officiers qui ne faisaient pas de culture physique. Il se soumettait à un training qui était à la fois ascétique et physique. Enfin, c'était un homme qui essayait de construire sa vie autant que la vie, que les circonstances le construisaient. Ratage, point d'interrogation. Est-ce bientôt le sort du Maroc, point d'interrogation. Donc voilà, je termine simplement, avant de dire quelques mots sur Méric après le Maroc. Bon, sur le Maroc, je vous ai tout dit, d'une certaine manière, c'est quand même terrible pour un homme comme lui d'être parti, d'être lâché par tout le monde, y compris par le secrétaire d'État aux affaires marocaines et tunisiennes, Savary lui dit « je ne peux rien faire pour vous ». Savary choisit l'armée contre lui. Il veut qu'au Maroc, il ne peut pas se mettre à dos les officiers du Maroc, Savary. Il choisit l'institution, on ne peut pas demander à Savary d'être Antigone. Bien sûr, dans le poste qu'il occupe. Mais il est lâché par Savary. Et il y a un type qui joue vraiment un très sale rôle dans cette histoire, c'est Chaban Delmas. On a complètement oublié que le Chaban Delmas de la Nouvelle Société, c'était un des artisans du 13 mai. Que c'était le président de la commission de la Défense nationale, sous le gouvernement de Bourgès-Monoury, avant de Gaulle. Et Chaban Delmas va au Maroc, en 1956, il va voir Méric et il lui dit... je vous conseille de partir. Votre place n'est plus au Maroc. C'est un jugement. C'est pas un conseil. Il n'a que le pouvoir de président de la commission de la défense nationale. Mais vous voyez, cet homme a tout le monde contre lui. Quand il rentre de Paris, il se terre. Il a l'impression d'être un proscrit. Et il y a deux personnes qui le soutiennent. Jean Védrine, le père d'Hubert, qui avait joué un rôle central dans le retour du roi, le retour du sultan. Il était un haut agent des parfums Carven. Hein. Donc vous voyez, les parfums Carven ont éminemment contribué, et c'est eux qui ont financé la conférence nationale pour la solution du problème franco-marocain, qui a été le détonateur, le sésame, si vous voulez, qui a permis de trouver l'arrangement d'Aix-les-Bains et ensuite des accords de la 7-5-Cloud. Roger Stéphane, un homme très... un grand résistant, un gaulliste de gauche, un anarchiste aussi, un esthète, pas le temps d'en parler, mais un homme très intéressant aussi, et qui était un grand ami de Bourguignon, qui a joué un rôle très important en Tunisie surtout, beaucoup moins grand au Maroc. Bon, je suis content aussi de dire ces noms, parce que quand on écrit ces histoires, ce sont toujours les mêmes, parce qu'ils ont vécu très longtemps. Les gens qui vivent très longtemps voient les jeunes historiens, et hop, les jeunes historiens, dont j'ai été bien sûr, on écrit la saga des grands ancêtres. Et puis dans les archives, on découvre que les gens qui ont pris des positions très courageuses dans ces circonstances, c'est pas toujours les gens dont on a parlé après. Pour le sultan du Maroc, un des hommes qui a été le plus courageux, on n'en a jamais parlé, c'est Régis Blachère. Il était à la SFIO et en pleine grève des transports en commun, le 15 août 1953, il va voir à pied, il n'habitait pas à côté, à l'Élysée, Auriol, il le connaissait bien et il lui dit pas camarade, je ne sais pas s'il le tutoie, parce que ça c'est de l'histoire orale, mais il lui dit vous faites fausse route, enfin c'est un scandale, c'est une déposition du sultan. Mais les gens quand vous lisez les libéraux au Maroc, on ne parle pratiquement pas de Régis Blachère. Méric, on n'en a jamais parlé parce qu'il est resté dans l'armée, parce que c'était un homme qui considérait qu'il devait avoir un devoir de réserve. Il avait une culture professionnelle profondément marquée par l'armée. Donc, bon, personne n'en a jamais parlé jusqu'à ce que je rencontre sa fille. Jean Lacouture, lui, savait, mais je n'ai pas pu le rencontrer. C'était un homme inabordable, mais peu importe. Paix à ses cendres. Que la terre lui soit légère. Alors, simplement, donc voilà, je termine simplement en disant que, avant de dire quelques mots, dans son journal quand même, cette citation, il faudrait se décider à comprendre que le néo-destour est la seule force politique de ce pays, donc moralement autant que politiquement, la seule carte méritant d'être jouée. C'est-à-dire que son anticolonialisme, si j'ose employer cette expression, qui peut-être ne colle pas, ne correspond pas exactement à sa position, il est pensé autant qu'il est émotif, réactif. Et je rapprocherai son itinéraire de celui de Louis Massignon, bien que les deux hommes, je crois, ne se soient jamais rencontrés, et encore moins, je pense, blairés. Ils étaient vraiment trop différents. Mais ce sont deux hommes qui sont nés dans un horizon de pensée plus colonial que moi, tu meurs, si j'ose dire, et qui sont passés par sauts successifs au fil des convulsions de l'histoire, de la bonne conscience coloniale à la condamnation du système, portée chez Massignon par une colère incendiaire, et chez Méric par une indignation qui ne lui interdit pas de conserver une culture professionnelle, des automatismes mentaux, un état d'esprit modelé, imprégné par le métier des armes. Alors, qu'est-ce qu'il devient après 55? Je raccourcis bien sûr ce petit topo. Après 56, il va devenir le directeur, pas immédiatement, mais je raccourcis, de la revue Maghreb, qui deviendra Maghreb Mashrek. Il collabore avec Nicole Grimaud, avec Elisabeth Stemmer, c'est-à-dire avec Elisabeth, grande spécialiste de la Syrie et du Liban. Aidez-moi.
Picard.
Elisabeth Picard. Elle a beaucoup travaillé à Maghreb, elle a fait des notices que j'ai admirées. Ça ne vous étonnera pas. Donc, il devient directeur de la revue Maghreb jusqu'à sa mort, le 31 mai 1953. Il garde des liens étroits avec l'élite nationaliste tunisienne. Alors là, c'est dommage parce que j'ai pas trouvé la correspondance. J'ai trouvé que quelques bribes de correspondance, mais je sais que sa correspondance a été très étroite avec Mestiri en particulier, avec Masmoudi en particulier. Meïri, il est mort en 1965, mais Masmoudi vit encore. Je ne suis pas arrivé à retrouver sa trace. Je crois qu'il vit en Suisse, comme Ahmed Ben Salah. Avec le Maroc, alors là, c'est plus compliqué. Avec le Maroc, il a une réaction très forte lors du massacre des colons de la région de Meknès. Il y a une centaine de colons européens qui sont massacrés après l'arraisonnement de... C'est du piratage de l'air, de l'avion des dirigeants du FLN, qui avait été affrété par Mohamed V et qui allait à une conférence en maghrébine à Tunis, par l'armée française. Alors là, le dernier directeur de l'intérieur, évidemment, se sent interpellé. 6 mois avant, il était encore responsable du maintien de l'ordre au Maroc. Et alors là, il écrit de très belles lettres à Monteil et à Henriane de Chaponnet, qui est un personnage très, très romanesque. C'est la petite fille du duc d'Orléans. Et les d'Orléans, comme le comte de Paris, ont été légitimistes, donc ils ont soutenu le roi après sa déposition. Ils étaient repliés au Maroc grâce à Lyautey, pendant son proconsulat, pardon. Et il leur dit que, enfin, je ne veux pas vous lire ses lettres, mais si vous voulez, on sent que c'est un homme blessé et qui dit à ces deux personnes: mais vous êtes des irresponsables, vous ne mettez pas les mains dans les manettes du pouvoir. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être responsable de la vie des gens. Moi, je le suis. Et les Marocains ont été dégueulasses parce qu'ils ont laissé faire ces massacres, ils pouvaient les empêcher, etc. etc. Il finit par se raccommoder avec l'élite marocaine, mais pas n'importe laquelle. Ses liens, sauf Barek Bekaï, parce que tous les officiers marocains, il a été très proche d'eux. Pas Oufkir, pas Driss Bana Omar, les grands généraux du régime, mais d'autres. On peut dire que son officier favori au Maroc, celui avec lequel il s'entendait le mieux, c'est Medbou, l'artisan du coup de Srirat, qui a été dépassé par le colonel Ababou, mais celui, si vous voulez, un officier qui découvre aux États-Unis que les gens de l'entourage très proche du roi font des affaires dans le dos des contribuables marocains, et revient avec l'idée de faire un coup d'État, de déposer Hassan II et de confier le pouvoir au tout petit futur M6, Mohamed VI, et qui est une régence militaire. Bon, je passe, mais en dehors de quelques officiers comme Maïbou, il passe à gauche, si vous voulez. C'est un homme qui est fasciné par les intellectuels de gauche anticoloniaux, du style Julien, Drech, Berck, qu'il avait connu au Maroc, etc. Et je terminerai simplement en disant deux choses. Il devient un ami de Ben Barka, mais je n'ai pas pu savoir s'il avait été un go-between entre l'Élysée et Ben Barka, puisque vous savez que Ben Barka était une carte de De Gaulle, qui s'intéressait à la tricontinentale, comme c'était l'altermondialisme contre l'alter les deux grands, si je puis dire, contre le partage du monde entre l'Union soviétique et les États-Unis. Le frère de Ben Barka était à l'enterrement d'Edouard Méric, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants nationalistes tunisiens-marocains. Vous voyez, donc des liens personnels qui ont été des liens à la vie et à la mort. Et puis, Youssoufi, par exemple, que je ne suis pas arrivé à joindre, l'ancien Premier ministre du gouvernement de transition. Donc je terminerai sur deux anecdotes. La première anecdote, sur des faits significatifs, il est convoqué comme témoin par la cour d'assises qui lance une enquête pour élucider les conditions de disparition de Ben Barka. C'est le dirigeant de l'UNEM, le président de l'UNEM en exil, Taïeb Tahiri, qui lui demande de témoigner. Alors il envoie un témoignage écrit, mais il dit qu'en tant que militaire retraité, il ne veut pas venir à la barre. Donc son témoignage écrit est lu. Et peu de temps avant de mourir, il y a un grand colloque sur le 50e de la proclamation de la République du Rif en janvier 1950, en janvier de 1973, à la Maison du Maroc. Et Charles-André Julien lui demande de faire une communication sur la pacification du Rif. C'est le titre de sa communication lui propose Charles-André Julien. Et je ne sais pas pourquoi, il est sur le premier programme, il n'est plus sur le deuxième programme, et entre le premier et le deuxième programme, Julien ne sait pas à qui demander, et comme j'avais déjà vu Julien, j'étais un très jeune, j'avais pas 30 ans, non, je venais d'avoir 30 ans, pardon, peu importe, enfin, j'étais pas vieux, et donc, c'est moi qui ai remplacé Méric. Méric est venu à ce colloque parce qu'il en a fait, c'est son dernier écrit dans la revue Maghreb. Il en fait un petit compte-rendu, sec comme un coup de trique, parce qu'il écrivait comme un officier dès que c'était scientifique. Pas d'épithète, un substantif, un verbe, un adverbe, un verbe, et le moins d'épithète possible. On a dû se croiser, mais c'est tout. Alors, je termine sur certaines anecdotes, c'est simplement pour dire, vous voyez, les circonstances, une fois de plus, font que j'aurais pu connaître Méric beaucoup plus tôt, mais il faut reconnaître qu'il est mort quelques mois après.